bon, on va commencer, on ne va pas prendre du retard. Il n'y a pas de raison de penser qu'ils sont venus à l'heure. Surtout qu'on est face à un sujet qui est assez compliqué, mais qu'on va essayer de vous expliquer, qui est le nouveau dispositif en matière d'éloignement du territoire français, avec cette nouvelle obligation de quitter le territoire français. Donc je vais donner la parole à plusieurs intervenants qui vont essayer de vous expliquer à la fois, je dirais, le mécanisme, et puis les enjeux de ce mécanisme, et puis de le replacer dans un contexte plus large de politique d'immigration, voire même le lien aussi avec la précarité. Donc tout d'abord, pour commencer, pour vous présenter de façon simplifiée le dispositif nouveau, Sarah Belaïche de la CIMAD, pour la CIMAD.
Bonjour, donc moi effectivement je vais vous présenter d'abord les choses de manière très simple, et puis mes collègues entreront dans les détails de la procédure et du dispositif. Donc c'est la loi Sarkozy qui a initié la réforme d'une partie du dispositif concernant les mesures d'éloignement en créant la mesure dont on va vous parler, l'obligation de quitter le territoire français, le QTF. Alors cette réforme entre en application ces jours-ci, puisque c'est la loi qui a créé le QTF, mais c'est un décret d'application qui est paru le 29 décembre 2006 au JO, qui permet d'appliquer ce dispositif. Donc, pour comprendre cette réforme, je pense que le plus simple, c'est de vous faire un petit rappel de la situation antérieure, donc ce qui existait avant l'obligation de quitter le territoire et ce qui existe depuis le 29 décembre 2006. Donc, avant l'obligation de quitter le territoire, le système était le suivant. Un étranger qui déposait une demande de titre de séjour, si la préfecture décidait de rejeter sa demande, notifiait à l'étranger un refus de délivrance de titre de séjour, qui était accompagné d'une invitation à quitter le territoire, qui permettait à l'étranger de disposer d'un mois pour quitter volontairement la France. Donc il avait un mois pour préparer son départ. Parallèlement à ce délai d'un mois pour quitter volontairement la France, l'étranger disposait de 2 mois pour contester la décision de refus de délivrance de titre de séjour. Donc il pouvait la contester de plusieurs manières, soit en faisant un recours auprès du tribunal administratif dans un délai de 2 mois, soit en faisant parallèlement ou avant le recours devant le tribunal administratif, un recours devant la préfecture ou le ministère. Ce qui permettait, et qui était vraiment très très important, d'avoir une discussion avec l'administration qui avait pris le refus de séjour, ou avec son supérieur hiérarchique, le ministère de l'Intérieur, avant même de demander à la justice de se prononcer sur le dossier. Donc ce qui évitait pas mal de recours contentieux quand les préfectures ou les ministères acceptaient de revenir sur leur décision, soit parce qu'elles reconnaissaient qu'elles avaient fait une erreur au moment où elles avaient examiné le dossier, soit parce que la personne avait déposé un dossier qui n'était pas toujours très bien constitué, il se faisait aider d'une association ou d'un avocat, et il arrivait à démontrer qu'il remplissait les critères pour être régularisé. Donc ce recours gracieux hiérarchique auprès de la préfecture ou du ministère avait une importance, puisque ça évitait de saisir systématiquement le tribunal, ce qui est quand même une procédure lourde, coûteuse, longue, etc. Le fait de contester le refus de délivrance du titre de séjour n'était pas suspensif. Donc ça, c'était la première mesure. Je dépose une demande de titre de séjour, la préfecture me notifie un refus de séjour et me laisse un mois pour partir. Pendant ce temps-là, j'ai 2 mois pour faire un recours qui n'est pas suspensif. Si au bout du délai d'un mois de l'invitation à quitter le territoire, je suis toujours en France, la préfecture avait la possibilité de prendre un arrêté de reconduite à la frontière. Donc une deuxième mesure distincte, qui est une mesure d'éloignement forcée, puisqu'à partir du moment où l'étranger était arrêté, la préfecture pouvait le renvoyer dans son pays d'origine. Donc il s'agissait d'une deuxième mesure qui permettait à l'étranger de faire un deuxième recours. Et donc éventuellement de présenter des arguments qui n'auraient peut-être pas été très bien développés dans la première requête. Donc on avait 2 mesures, 2 recours, des délais différents pour le premier recours et pour le second, puisque pour le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, on n'avait que 7 jours pour faire un recours, ce qui est un délai très court. Cela dit, on était dans la situation où l'étranger avait déjà eu un refus de délivrance de titre de séjour, et savait que la mesure suivante pouvait être un arrêté de reconduite à la frontière. Un délai très court pour faire le recours, mais en même temps, une situation dans laquelle normalement les choses avaient déjà été préparées un petit peu à l'avance, ne serait-ce que pour le premier recours. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les préfectures ne prenaient pas un arrêté de reconduite à la frontière après avoir pris un refus de délivrance de titre de séjour, puisque ça n'était pas automatique. Elles pouvaient le faire, mais toutes ne le faisaient pas. Certaines préféraient attendre que l'étranger soit arrêté pour prendre un arrêté de reconduite à la frontière, le placer en rétention. Et à ce moment-là, on avait la possibilité de faire un recours contre cette mesure pendant le placement en rétention. Donc le fait que toutes les préfectures ne prennent pas cet arrêté de reconduite à la frontière faisait aussi qu'il y avait beaucoup moins de recours devant les tribunaux que ce qu'il va y avoir aujourd'hui, et on va voir pourquoi. Aujourd'hui, donc, on oublie ce système. Un étranger qui dépose une demande de titre de séjour, si la préfecture décide de ne pas lui délivrer ce titre, elle prend un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, qui est donc une mesure d'éloignement forcé, comme l'arrêté de reconduite à la frontière. Et cette obligation de quitter le territoire, elle fixe le pays de destination. Donc, on a des mesures distinctes, mais qui sont notifiées en même temps à l'étranger. Le même jour, on lui dit « on refuse de vous donner un titre de séjour » ou alors « on refuse de vous le renouveler » ou alors « on vous retire votre titre de séjour » et on lui dit en même temps « en plus, vous faites l'objet d'une mesure d'éloignement forcée qui fixe le pays de destination et que l'on pourra exécuter au bout d'un mois » puisque, comme précédemment, l'étranger dispose d'un mois pour quitter volontairement le territoire. Donc, quand l'étranger reçoit tout ça, ces trois mesures dans une même décision, il n'a plus cette fois qu'un mois pour déposer un recours, pour contester trois décisions, auxquelles il n'est pas forcément préparé, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'étranger recevait d'abord une première décision qui lui disait « je refuse de vous donner un titre » et ensuite une seconde décision, un mois plus tard au minimum, qui lui disait « vous avez un arrêté de reconduite à la frontière ». Là, le même jour, il reçoit tout, il a un mois pour faire les recours, et vous verrez, on parlera un petit peu plus en détail de cette histoire de brièveté des recours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fois, le recours contre l'obligation à quitter le territoire français est suspensif. Mais c'est un effet suspensif un petit peu bizarre, puisque la préfecture ne peut pas reconduire à la frontière un étranger qui a fait un recours dans le délai d'un mois, mais par contre, elle peut tout à fait le placer en rétention et demander au juge de statuer très rapidement sur la situation pendant que l'étranger se trouve en rétention. Donc, le recours contre cette obligation de quitter le territoire français est suspensif contre l'éloignement, mais pas contre le placement en rétention. La police arrête un étranger qui a fait un recours dans le délai d'un mois, elle le place en rétention, du coup elle est obligée de demander au juge de se prononcer très rapidement, en 72 heures. Si le juge estime que cette obligation de quitter le territoire français est illégale, l'étranger est libéré mais n'est pas pour autant régularisé automatiquement, il y a encore toute une procédure. Si le juge estime que l'obligation de quitter le territoire français est légale, l'étranger est renvoyé. Donc, vous allez voir plus en détail les implications concrètes de ce dispositif et les conséquences que ça va avoir pour les étrangers en termes de défense de leurs droits. On a vu que les délais de recours sont plus courts, qu'il y a beaucoup moins de garanties, puisqu'à partir du moment où l'étranger a fait son recours au tout début, quand il a reçu son obligation de quitter le territoire, il ne peut plus rien faire après. S'il est en rétention, c'est sur la base de cette mesure qui a dû être contestée dans le délai d'un mois. Une fois en rétention, il n'a plus aucune possibilité de faire un nouveau recours et donc de faire valoir peut-être sa nouvelle situation. Parce que sur la base de cette OQTF, l'administration peut placer l'étranger en rétention pendant un an. Or, pendant un an, il peut se passer plein de choses. Donc, au jour J, il prend une OQTF en étant, mettons, célibataire. 9 mois après, il est arrêté dans la rue, il s'est marié entre-temps ou il a eu des enfants. Il aura exercé son recours contre l'obligation à quitter le territoire 8 mois avant. On va le placer en rétention et on va examiner son dossier au vu des éléments qu'il avait développés 8 mois avant. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on peut mettre dans l'avion une personne sans examiner sa situation au jour où on va le mettre dans l'avion.
Alors je vous donne la parole à Anne-Tolly de Droit Pro, Droit d'urgence, qui va nous parler davantage peut-être des délais et donc d'un éclairage plus pratique du nouveau dispositif.
Donc bonjour, comme l'a dit Sarah, effectivement, le délai aujourd'hui pour contester le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire est passé à 1 mois. 1 mois, c'est un délai parfaitement dérogatoire en droit commun, en droit administratif, puisque le délai classique est de 2 mois, avec des incidences pratiques très concrètes. Il est bien évident, donc très concrètement, 1 mois, ça veut dire 1 mois pour réunir les arguments, les pièces, les documents écrits qui viendront étayer les arguments de l'étranger à son droit à rester en France, et en tout cas à ne pas être éloigné du territoire. 1 mois, c'est très très court pour des gens qui, effectivement, arrivent en France dans des conditions pas toujours très organisées. Ça veut dire également qu'il faut, dans ce délai d'un mois, évidemment, il faut que la requête soit déposée dans le délai d'un mois au tribunal à partir de la notification de la décision. Donc 1 mois pour trouver une défense. Cédric développera, mais il est évident que la plupart des permanences associatives sont engorgées. Donc il y aura effectivement des incidences en termes d'organisation énormes pour les associations. Il est bien évident que le raccourcissement du délai d'un mois tout frappera d'autant plus brutalement les étrangers précaires. Il est évident qu'avoir recours à un avocat privé, entre guillemets, sera beaucoup plus facile pour des étrangers ayant un minimum de revenus, un minimum d'argent, alors que les étrangers les plus précaires, il y aura un vrai problème déjà, c'est celui évidemment de l'information, du changement de dispositif. Des 2 mois, on est passé à 1 mois. Donc quid et qui va relayer cette information? Bien évidemment les associations, mais est-ce que le relais sera suffisant pour que l'étranger sache réagir et rebondir assez souvent? Idem pour les travailleurs sociaux présents au contact avec ces étrangers. Donc il est certain que de toute façon, ça touchera encore une fois les étrangers les plus précaires qui ne pourront se retourner entre guillemets que vers les associations d'accès aux droits et de défense des étrangers. Donc il est évident que ça réduit considérablement les droits de la défense de l'étranger et a fortiori de ceux précaires. 1 mois étant encore une fois un délai en droit, vous pouvez observer les textes qui est parfaitement dérogatoire.
D'abord Marianne Lagru. Marianne Lagru qui est avocate, donc qui intervient pour le compte de l'ADDE, et qui va développer certains points, notamment la question de l'aide juridictionnelle, et puis la réforme qui vous a été présentée par Sarah Belaïch. S'accompagne aussi, dans le même temps, comme par hasard, on va dire, d'une réforme des juridictions administratives. Donc c'est un petit peu le lien entre les deux, ou l'articulation entre les deux qu'il faut évoquer maintenant.
Oui, alors comme l'a dit Anne-Tolly, la grande difficulté pour l'avocat et pour l'étranger concerné, ça va être de pouvoir intervenir auprès du tribunal administratif dans ce délai d'un mois. Ça peut paraître peut-être 1 mois assez long pour rédiger, mais en fait, en réalité, il faut avoir le temps, comme l'a dit Anne, pour l'étranger de contacter un avocat ou une association, de réunir les pièces, de prendre connaissance de la teneur exacte de la décision, et puis après de rédiger dans les formes exigées par la loi et le décret, formes qui sont assez strictes, rigoureuses. Il y a un nombre d'exemplaires exigés, un nombre de pièces qu'il faut fournir, sinon ce recours est irrecevable. Ce qui est peut-être encore plus scandaleux, c'est que pour l'instant, sur l'aide juridictionnelle, qui est le système qui permet à un étranger, justement, en situation particulièrement précaire, d'avoir recours à un avocat sans le rémunérer, l'avocat étant rémunéré par l'État, eh bien, ce délai, et d'abord, ce système d'aide juridictionnelle n'est pas mis au point encore à l'heure d'aujourd'hui pour ce type de recours. Ce que nous savons, c'est que des conseillers auprès du Conseil d'État sont en train d'en discuter et qu'ils envisagent manifestement une réforme même du principe de l'aide juridictionnelle, car ils vont faire en sorte que cette décision d'aide juridictionnelle ne soit pas suspensive. Jusqu'à présent, quand un justiciable, quel qu'il soit, demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle, tant que l'avocat n'est pas désigné, eh bien, tout est suspendu. Ça avait parfois un intérêt certain, c'est que lorsqu'on était à la fin d'un délai, on demandait à la personne d'aller au bureau d'aide juridictionnelle, de demander un avocat, et ça suspendait tout. L'avocat n'était pas obligé de se précipiter pour faire un recours en 2-3 jours, par exemple. Et surtout, tant que l'avocat n'est pas désigné au titre de l'aide juridictionnelle, il n'a pas mandat, il n'a pas le droit d'intervenir. Or, à l'heure actuelle, la discussion qui prend cours dans ce petit comité qui va réformer apparemment, enfin, ou faire une proposition, c'est de dire... Le justiciable pourra demander l'aide juridictionnelle dans son premier recours. On lui désignera un avocat, mais ce ne sera pas suspensif. Et l'avocat, finalement, aura 15 jours, je ne rentre peut-être pas dans le détail, mais 15 jours pour faire un mémoire complémentaire, ce qui est très court. Parce que quand vous êtes avocat et que vous recevez une décision qui vous dit « Vous êtes désigné pour assister monsieur », le monsieur, il n'est pas, ou madame, il n'est pas devant vous. Il faut que vous lui écriviez, parce que vous n'avez pas son téléphone. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il vienne, il faut prendre rendez-vous. Et tout ça, ce n'est pas une heure, ça, vous n'êtes pas forcément libre le jour où lui est libre, et inversement. Donc, ce délai de 15 jours, si véritablement on en est là, ça rend quasi impossible le travail pour les avocats au titre de l'aide juridictionnelle. Et je dirais, on s'en fout. Mais en revanche, ça rend impossible pour le justiciable étranger, donc impossible un accès à une aide juridictionnelle. Or, c'est un droit pour tous, un droit d'accès à la justice, tout simplement. Donc ça, c'est très problématique pour nous. L'autre problématique, c'est que lorsque le requérant aura saisi seul, car le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans cette matière, eh bien, il pourra se voir finalement rejeté s'il n'a pas développé un certain nombre d'arguments suffisamment opérants. On parle de moyens opérants ou de moyens suffisamment fondés ou précis. Donc si le tribunal estime que son recours n'est pas assez précis, n'a pas assez de moyens juridiques, eh bien, sans audience, on pourra rejeter le recours. Alors, il y a toujours possibilité de faire un mémoire complémentaire dans les 15 jours. Encore faut-il que là, le requérant ait suffisamment été renseigné, informé, avoir pris quelqu'un qui sait faire un recours. C'est, il y a quand même un savoir, une technique, etc. Et malheureusement, la réforme, c'est ce qu'évoquait Nathalie, la réforme prévoit que le tribunal, dans ce qu'on appelle des ordonnances de tri, va trier ce qui est bien ou pas bien comme type de recours juridiquement parlant ou sur les faits, et va dire, bah, celui-là, c'est manifestement, il n'y a rien, je ne le reçois même pas en audience, et je le rejette. Or, il nous est tous arrivé de voir quelqu'un qui a un dossier qui se tient juridiquement parlant hein, et qui rentrerait dans un des critères de la loi, mais qui ne sait pas faire et qui n'a pas dit ce qu'il fallait, qui n'a pas bien développé, c'est tout. Donc ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de pas bien au départ que ce n'est pas récupérable. Et justement, les associations, les avocats, par la suite, apportaient leur savoir-faire juridique. Maintenant, ce sera vraisemblablement très difficile, voire impossible. Voilà les points sur lesquels je voulais vous attirer. Le point aussi sur le fait qu'il est possible de faire appel de la décision du tribunal. Ce délai est d'un mois, mais il n'est pas suspensif. Alors vous savez qu'un recours, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit suspensif. Si on peut vous renvoyer pendant ce temps, c'est pas intéressant. De même que on dit que le recours contre l'OQTF est suspensif, mais n'interdit pas de maintenir l'étranger en rétention. Comment vous voulez que l'association ou l'avocat travaille avec la personne si la personne est retenue au centre de rétention au Diable Vauvert? Donc, vous voyez, c'est une suspension tout à fait relative, et c'est le troisième point sur lequel je voulais insister, qui paraît, je crois, aux avocats, aux associations, assez scandaleux, parce qu'on vide de tout son sens la possibilité du recours.
Merci. Marianne, donc Cédric Graton pour la FASTI va nous parler un petit peu dans la lignée de ce que nous a dit Anthony sur les incidences finalement sur les pratiques des associations.
Alors, incidence à plusieurs niveaux, en fait. Et c'est vrai que pour nous, ça fait partie, la mise en place de cette OQTF fait partie des grosses, grosses inquiétudes qu'on a pointées dès le début de la connaissance de la nouvelle loi Sarkozy, hein, de ces EDA 2, dans le sens où, ça a été un peu dit ici ou là, mais je le rappelle, la première difficulté pour nous va être de faire passer le message auprès des premiers concernés. Et c'est vrai que ça, c'est un écueil important, dans le sens où on sait très bien, même si nos permanences administratives et juridiques sont surchargées avec tout l'ensemble du dispositif de régularisation qui est déjà très compliqué à mettre en œuvre, et plus ça va, plus pire c'est. Donc il va y avoir cet aspect-là des choses avec de l'urgence et avec un dispositif à mettre en place très compliqué. La question va se poser de comment on fait passer le message auprès des premiers concernés, et surtout, est-ce que l'incidence, ça ne va pas être que les premiers concernés se planquent. Se planquent, ne demandent pas une régularisation, ne demandent pas un titre de séjour ou zappent le renouvellement du titre, parce qu'il y aura ce risque de refus et d'OQTF qui sera adjoint. Donc le premier risque pour nous, il est là. Et c'est clair que les questions qu'on se pose là depuis qu'on a pris connaissance de ce dispositif, c'est clairement, comme on sait très bien que les régularisations sont difficiles à obtenir à l'heure actuelle, se pose clairement la question de est-ce que on mène à terme chaque demande de régularisation. La question se pose franchement, puisque on se pose la question de est-ce que ça vaut le coup, à un moment donné, pour des dossiers qui sont un peu bancals, de prendre le risque, clairement, d'avoir et un refus et une OQTF avec de l'urgence derrière à gérer. Donc le premier écueil, il est là, il est sur l'urgence que nous, on va avoir à gérer. Le deuxième écueil qu'on voit, enfin en tout cas la deuxième partie pour nous qui nous semble importante à préciser, c'est l'aspect lien, et notamment lien avec les avocats. Alors c'est vrai que rien n'oblige a priori la présence d'un avocat. Néanmoins, je pense que dans certains cas, il y aura quand même une nécessité au moins de travail en commun entre les associations et les avocats, notamment au début, pour qu'on soit un peu rodé à la mise en place d'un mémoire, nous associatifs, qui soit suffisamment consistant pour qu'on évite l'écueil de l'ordonnance de tri pour mémoire non conforme. Donc il y a ce premier cap à franchir, et puis plus largement, un travail qu'on va mettre en œuvre auprès des avocats localement. Et là, on verra certainement une grande disparité entre les villes où il y a des réseaux associatifs très forts, où du coup, il n'y a pas beaucoup de sans-papiers qui ne sont pas repérés, entre guillemets, par les associations, et là où il y a des associations qui sont en lien avec des avocats, où là, le travail pourra être un peu plus facilité, et puis des villes où, et d'une, il n'y a pas beaucoup d'associations, ou alors elles sont complètement débordées, et de deux, il n'y aura peut-être pas forcément d'avocats spécialisés en droit des étrangers. Donc là, il y a vraiment une difficulté pour nous à pointer. Et puis plus largement, nous, ce qu'on pense de ce dispositif et ce qu'on va voir certainement très rapidement au niveau de l'application que vont faire les préfectures de ce dispositif, c'est qu'on est clairement dans un rouage supplémentaire depuis déjà plusieurs années de machines à créer des clandestins, de machines à créer sans papier. On précarise l'entrée, on modifie les règles de visa, on précarise les conditions d'accès à des régularisations où on modifie les conditions de passage de carte de 1 an à carte de résident. Et puis, histoire de précariser un peu plus, a priori, ce n'est pas suffisant pour Sarkozy, cette précarisation, on en rajoute une couche où toute demande de renouvellement ou de demande de titre, il y aura cette épée de Damoclès d'obligation de quitter le territoire qui sera mise en œuvre par la suite. Donc vraiment, on est malheureusement dans un cadre extrêmement difficile et extrêmement compliqué de la régularisation des personnes sans papier, et l'OQTF est un coup de boutoir supplémentaire à ça.
Vraiment, c'est mon tour. Dans l'ordre que nous avons décidé collectivement. Donc moi, c'est Nathalie Ferré, je représente Justi. Je vais vous parler de deux choses un peu en marge, mais qui sont liées quand même au dispositif, c'est-à-dire d'une part du risque pénal qui demeure, et d'autre part des conditions d'interpellation. Mais avant, juste une petite parenthèse sur le fait que la police des étrangers est toujours un terrain d'expérience en fait pour les différentes réformes, et elle le sera aussi pour la réforme des juridictions administratives. Et le dispositif tel qu'il nous a été exposé, il y a une chose sur laquelle dont on n'a pas parlé, c'est que on a parlé de la brièveté du délai, notamment en cas de rétention. Hein, c'est cette hypothèse-là dont je voudrais parler maintenant. En cas de rétention, donc 72 heures pour statuer, pour le juge, et puis parallèlement à ça, en fait, on pourra avoir un changement de compétence du tribunal administratif. C'est-à-dire que le tribunal administratif que le juge aura saisi pour son refus de séjour et toute la suite, ça, le tout en un. En plus, s'il est interpellé, il va être placé en rétention administrative et pas forcément là où il habite. Et donc la compétence n'est pas forcément la même. C'est-à-dire qu'on va saisir à ce moment-là en cas de rétention le tribunal administratif du lieu de rétention. Donc ça pourra être un autre tribunal administratif. Et comme il n'y a pas des centres de rétention partout, on peut penser que tout ça va faire en sorte que les tribunaux administratifs proches de lieux de rétention importants vont avoir à connaître beaucoup de recours. Et comme vous savez, souvent il y a des effets d'entraînement, et on peut penser que ça sera aussi un lieu où on va recourir assez largement au rejet des requêtes mal fichues, mal rédigées. Et il nous semble que finalement, en tout cas, cette réforme interroge très fortement l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment le droit à un procès équitable. Et toutes les associations présentes s'engageront, je crois, à aller jusque devant le juge des droits de l'homme pour que cette violation soit reconnue. Alors, pour revenir à ce dont je devais parler, les conditions de, enfin, le risque pénal, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses où, effectivement, l'administration ne pourra plus prendre d'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou d'obligation, ou d'obligation qui était faite par Français. Je ne vais pas ici revenir dans le détail. Ça peut viser soit des situations antérieures à l'entrée en vigueur du dispositif, soit demain, il y a un refus de séjour et puis l'administration décide de ne pas accompagner ce refus de séjour d'une OQTF. Dans cette hypothèse-là, on ne pourra plus prendre de mesures de départ forcées par la voie administrative. C'est-à-dire plus d'expulsion administrative pour parler vite et pas employer les bons termes juridiques. Et on pourrait dire, c'est super, du coup, quand l'administration a décidé de ne pas faire ou n'a pas pu faire, on ne pourra plus éloigner les personnes. Mais en réalité, il ne faut pas ici oublier un risque qui existe toujours, c'est que l'entrée irrégulière sur le territoire français, le séjour irrégulier, demeure un délit. C'est-à-dire qu'on pourra quand même poursuivre ces personnes devant le juge pénal pour entrer au séjour irrégulier, puisque le juge pénal peut tout à fait donc prononcer pour simple séjour irrégulier une peine qui peut aller jusqu'à 1 an de prison et une interdiction du territoire français qui peut aller jusqu'à 3 ans et qui vaut évidemment mesure de départ forcée. Donc on espère que effectivement, cette réforme ne sera pas non plus l'occasion d'avoir à nouveau une vague de sans-papiers poursuivis pour séjour régulier et donc de sans-papiers dans les prisons françaises et condamnés à une interdiction du territoire d'une durée allant au moins jusqu'à 3 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on réfléchit sur l'efficacité du dispositif, puisque il faut quand même y penser, c'est que tout ça est fait par voie postale. On va envoyer le refus de séjour avec le QTF et la détermination du pays de renvoi. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on va augmenter le taux d'exécution des départs forcés. Simplement, on sait que ça doit être combiné, et c'est déjà combiné, il suffit de le voir, avec une mobilisation des forces de police et toutes les pratiques qui existent déjà en matière d'interpellation, dont on sait qu'elles sont illégales, et pour autant, on a beaucoup de difficultés à faire valoir cette illégalité. Il suffit d'avoir à l'esprit, sans doute certains d'entre vous l'ont en tête, cette circulaire qui est un véritable manuel à traquer les sans-papiers et qui date du 21 février 2006. On n'avait jamais vu en la matière une circulaire aussi épouvantable. Et j'en parle aussi parce que les associations ici présentes ont attaqué cette circulaire et que le Conseil d'État va juger de la légalité de cette circulaire dont l'esprit est absolument horrible, le 24 janvier à 14h, donc au Conseil d'État, il est fort à parier, parce qu'on connaît aussi à la fois, peut-être que Jean-Pierre Dubois parlera du Conseil d'État, je laisse quand même ça.
Cadeau.
Il est probable que le Conseil d'État rejette en réalité le recours, mais il nous semblait important à nous, on avait tout à fait conscience de ce risque, nous ne sommes pas des doux naïfs, mais qu'on ne pouvait pas laisser. On ne pouvait pas ne rien dire sur cette circulaire qui est épouvantable d'inciter les interpellations les interpellations au guichet, qui ne concernent pas notre hypothèse, hein, mais les contrôles d'identité dans le cadre de réquisition du procureur de la République, les contrôles d'identité aux alentours des foyers, etc., etc., enfin tout ce que vous pouvez voir et dénoncer vous-même. Donc là, Jean-Pierre Dubois, pour la Ligue des droits de l'homme, va un peu nous présenter plus largement, je dirais, le contexte politique.
Je ne veux pas être trop long, simplement, vous savez que des centaines d'associations se sont réunies autour du collectif Unis contre l'immigration jetable, et donc évidemment, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est continuer ce combat. D'ailleurs, Nathalie était une des animatrices de ce collectif qui a rassemblé vraiment un front très large. Le contexte. Quatre idées simples, c'est la précarisation, c'est l'utilitarisme, c'est l'arbitraire, et puis c'est la chasse à la solidarité. Et c'est ça, je crois, qui nous marque le plus aujourd'hui. Alors la précarisation, on va insister longuement, c'est une fabrique de sans-papiers, une de plus. On fabrique beaucoup plus de sans-papiers au Parlement que par les arrivées sur le territoire. Et cette fois-ci, c'est une fabrique à grande échelle. C'est-à-dire qu'on est passé à un cap presque industriel dans la fabrique de sans-papiers. Donc c'est au fond une politique qui crée ce qu'elle dénonce. Elle dénonce l'immigration irrégulière et elle la fabrique, ce qui alimente évidemment la répression, l'utilisation politique, et on voit bien dans quel but. Ça veut dire qu'au fond, c'est pas seulement les sans-papiers, ce sont tous ceux qui étaient là depuis de longues années et dans des conditions stables et qui sont précarisés, qui sont jetés dans la clandestinité ou dans la peur. Je voudrais juste donner un exemple. Il se trouve que je milite en Seine-Saint-Denis. On s'est occupé il y a quelques jours d'une famille. Je ne citerai pas le nom, on a obtenu la régularisation quand même. Cette famille était en situation régulière à Paris. Elle a déménagé en Seine-Saint-Denis. La préfecture de Seine-Saint-Denis a refusé un titre de séjour. Ces gens ont failli être expulsés. Ils ont vécu dans la clandestinité pendant 6 mois. Le père de famille travaille, il est charpentier, il a une très bonne qualification. Les enfants étaient scolarisés à Paris, ils le sont de nouveau maintenant en Seine-Saint-Denis. Et petite cerise sur le gâteau, la gamine qui a 9 ans a été opérée d'un cancer du rein. Il y a 1 an et demi, elle était en instance de renvoi au Mali. Alors c'est ça, maintenant, aujourd'hui. Des affaires comme ça, on peut tous vous en citer 40. Et il a fallu 3 rendez-vous chez le préfet pour qu'on comprenne qu'on ne renvoie pas une gamine de 8 ans qui a le cancer au Mali, parce qu'on la tue. Là, il faut faire des chiffres. Donc c'est ça, la précarisation. Des gens qui étaient en situation régulière. Il y en a plein. Deuxième chose, je n'insiste pas sur l'utilitarisme. C'est ce qu'on avait dit, UCIJ, c'est Unis contre l'immigration jetable. C'est-à-dire qu'en gros, M. Sarkozy a eu beaucoup de franchises. Il a dit lui-même, il a résumé lui-même en une formule, toute sa loi. Non à l'immigration subie, place à l'immigration choisie. Sous-titrons, l'immigration subie, c'est les bouches inutiles. C'est les femmes et les gosses, c'est leur groupement familial. Ces gens-là sont juste bons à créer des problèmes. Et l'immigration choisie, ben, nous savons tous ce que c'est. C'est des travailleurs Kleenex, c'est des gens qui sont surexploitables et qui peuvent permettre de faire pression sur tous les salariés. Je rappelle que malgré les apparences, les papiers sont toujours chez le patron. C'est-à-dire que même si on a supprimé la formule qui le disait explicitement, l'interruption du contrat de travail vaut interruption du titre de séjour professionnel. Donc il suffit d'être licencié, même injustement, pour perdre son droit au séjour. Il faut se rappeler ça aussi, hein. Derrière, il y a ce qui vient d'être expliqué. L'arbitraire, bah, c'est tout ce qu'on vient de dire, hein. C'est des délais raccourcis, c'est des délais qui sont plus suspensifs, c'est une justice expéditive, et c'est surtout l'inégalité devant la justice expéditive. Ça a été dit, mais on insiste beaucoup là-dessus. Qui va trinquer? Ceux qui sont les plus en difficulté, les plus fragiles, ceux qui ne pourront pas facilement trouver un avocat, ceux qui n'ont ni l'argent, ni les ressources humaines, ni les connaissances pour se débrouiller. Il y a derrière ça une mesure très inégalitaire, une mesure qui frappe les plus fragiles toujours. Et puis c'est la chasse, je termine là-dessus parce que c'est quand même insupportable. Quoi. La chasse aux étrangers, la chasse aux enfants, et aussi la chasse à la solidarité. Je rappelle le fichier Eloi, puisque là encore, avec le Gisti, avec Iris, avec d'autres associations, les droits de l'homme a attaqué ce fichier. On est dans la procédure devant le Conseil d'État. Il a été créé quelques jours après la loi, hein, fin juillet, je rappelle que c'est un fichier facilitant l'éloignement des étrangers sur lequel nous sommes tous. Hein. Toute personne qui a un contact avec un étranger, c'est-à-dire qui est suspecte de solidarité, est maintenant sur ce fichier, il s'agit d'intimider. Et on a d'autres éléments, hein, des poursuites contre des militants, des gens qui viennent Par exemple, toujours en Seine-Saint-Denis, un contrôle d'identité d'une directrice dans son bureau. Les policiers entrent dans le bureau et contrôlent l'identité de la directrice d'école dans le bureau. Parce qu'elle est suspecte de cacher des gamins.
C'est légal, ça?
Je ne suis pas spécialiste des contrôles d'identité, mais j'ai un fort doute, oui. J'ai un fort doute. C'est d'ailleurs ce qu'elle leur a poliment répondu. Oui. Ça n'a jamais allé plus loin. Hein.
Mais non, enfin, c'est pas légal.
Mais bien sûr que non. Hein. Bien sûr que non, on ne peut pas faire des contrôles d'identité sans aucune raison, n'importe où, comme ça. Le problème, c'est que maintenant, plus personne se pose cette question. Enfin, vous aussi, mais je suis sûr que très peu de gens se posent la question. Il y a très peu de gens osent dire, mais sur quelle base vous contrôlez mon identité? Et encore moins, sur quelle base vous ne la contrôlez pas? Comme beaucoup de gens, Nathalie aussi, en Seine-Saint-Denis, on essaye désespérément de se faire contrôler, on n'y arrive pas, depuis des années, chacun sait. Mais c'est le hasard. C'est comme les bagagistes droits civiques, permettez-moi cette petite parenthèse, c'est aussi le hasard. 2300 personnes privées d'emploi sur l'aéroport de Roissy depuis 5 ans. Au nom de la lutte antiterroriste, par un sous-préfet de la République, le sous-préfet dit lui-même publiquement, il y a 2300 refus fondés sur d'autres motifs que la lutte contre le terrorisme. Il dit ça tranquillement. 2300 juste sur d'autres motifs. C'est quoi les autres motifs? C'est très variable, hein. Vous conduisez trop vite, vous avez eu un divorce bizarre, des choses comme ça. Mais en revanche, derrière cette diversité de motifs, il y a un vrai point commun qui rend toute la population homogène. Il suffit de consulter les noms, les prénoms, et regarder les photos. Très clair, ils ont des têtes de musulmans, c'est-à-dire des têtes d'islamistes. Que je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de jouer, c'est une politique xénophobe. C'est pas seulement une politique sécuritaire, une politique populiste, c'est une politique xénophobe. Donc, nous serons nombreux, je pense, à demander à tous les candidats l'abrogation de la loi du 23 juillet, l'abrogation des autres dispositifs de chasse aux sans-papiers, et la définition d'une autre politique migratoire fondée sur le respect des droits fondamentaux de tous les êtres humains. Voilà.
Merci beaucoup
pour le rappel. Oui, ben, je crois que beaucoup de choses ont été dites sur aujourd'hui terriblement cette réalité dont les ravages sont incommensurables. Ça a été dit, et je pense qu'on le voit quotidiennement dans nos permanences, depuis quelques mois et qui prolonge quelques années, un vent très mauvais est en train de souffler. Et c'est un vent qui a charrié et qui charrie encore aujourd'hui des dégâts considérables. Tout a été dit tout à l'heure sur la précarité absolue dans laquelle on a mis ces populations immigrées. Cette criminalisation de l'immigration avec une machine de guerre sans précédent qui a été mise en œuvre. Et là, on a aujourd'hui une arme supplémentaire dans cette machine de guerre pour répondre à cette politique tout à fait inhumaine, cruelle et tout à fait inefficace. Alors, au-delà des ravages, et je pense qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de sans-papiers sont dans une situation de peur et d'angoisse. Non seulement parce qu'il y a des gens qui ont osé, il n'y a pas très longtemps, eh bien, aller faire confiance en la République en allant s'inscrire pour demander leur régularisation. Et on a vu comment plus de 30 000 personnes se sont déplacées dans les préfectures. Et aujourd'hui, l'angoisse qu'ils ont, c'est qu'ils sont fichés. Les préfectures ont les coordonnées de leur employeur. On sait où ils habitent. On sait où sont les enfants. Et je pense que cette mesure, venant en plus de cette réalité intenable et de ce piège qui a été vécu par un nombre d'entre eux, ne peut qu'accroître et amplifier cette angoisse et cette peur. C'est aussi une réalité qui fait que la France est en train de se défigurer. Il y a cette mesure, mais il y a aussi ce qu'elle signifie. Et je crois qu'on est en droit de se dire aujourd'hui, sans exagération aucune, est-ce que nous sommes encore dans un état de droit? Est-ce qu'on est encore dans un état de droit lorsque les droits de vivre en famille aujourd'hui n'existent plus? Est-ce qu'on est encore dans un état de droit lorsqu'on voit la réalité du droit d'asile? Est-ce qu'on est encore dans un état de droit lorsqu'on voit de manière illégale s'organiser, se structurer des rafles quotidiennes et permanentes? Est-ce qu'on est dans un état de droit, enfin, lorsque, aujourd'hui, ce droit fondamental à la défense est aujourd'hui renié avec les conditions qui sont mises en œuvre? La vraie question, elle est là, au-delà de ces ravages. Sommes-nous encore dans un état de droit? Et je pense qu'à cet égard, on ne peut pas occulter cette nécessaire mobilisation. Et ce qui est tout à fait aussi insoutenable, parce que ça, c'est un instrument pour servir une politique tout à fait inacceptable sur l'éthique, sur la morale et sur l'essence même des droits de l'homme. Je suis atterré de voir comment on a fait admettre et faire passer dans l'opinion publique et au-delà même ce concept d'intention xénophobe et raciste qui est l'immigration choisie par rapport à l'immigration subie. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est de dire en gros, cette immigration subie, c'est une immigration en trop et il faut qu'on mette en place une machine à catapulte. Et cette mesure s'inscrit là-dedans. Il faut remettre, me semble-t-il, les choses à leur place. Et je crois que ce qui est en train de se passer est terriblement désastreux. Donc, sur l'état de droit. Et en même temps, je pense aux conséquences que ça va avoir au niveau de nos permanences. Nos permanences de sans-papiers, et comme l'ensemble des associations, sont asphyxiées aujourd'hui. Asphyxiées par rapport, effectivement, aux dossiers, asphyxiés par rapport aux procédures, et là maintenant, les conditions, y compris de, on a parlé de l'information, qui est un élément, c'est droit fondamental, mais d'accompagner et de suivre, et d'engager les recours. Ça veut dire, on veut aussi nous étouffer. Et si on relie ça au délit de solidarité, vous voyez dans quel état on peut se retrouver. Donc, je pense que il faut bien sûr se mobiliser, c'est ce que, par l'information, effectivement, je crois que on va de plus en plus créer des poches de clandestinité quand on sait qu'en plus maintenant, au-delà des 10 ans de résidence français, on ne pourra plus être régularisé. Plus cette mesure, on voit encore comment on va créer des poches de sans-papiers. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut dénoncer effectivement ces dégâts, dénoncer les enjeux et dénoncer l'instrumentalisation, une fois de plus politique, de ce thème de l'immigration. Et ce, pour se servir une fois de plus de l'immigré, comme on a pu le voir dans une certaine période, tout ça avec les ravages, mais pour flatter un certain nombre d'électorats. Et à mon avis, le calendrier de cette loi, comme le calendrier de cette mesure, n'est absolument pas un hasard dans le contexte actuel.
Donc voilà, vous êtes invité à poser des questions, si vous avez des précisions. On a juste une petite chose, c'est qu'il y a une circulaire d'application du dispositif sur l'OQTF, date du 22 décembre 2006, donc si vous voulez la récupérer, je crois qu'elle n'est pas, on vous l'a pas donné la note, mais on peut vous la faire passer si vous le souhaitez. Voilà. Elle doit être sur Internet. Enfin, j'en sais rien, je crois pas, parce qu'on a dû nous-mêmes la scanner, je crois.
Je pas sur Internet.
Mais vous passez par une des associations ici présentes et elle vous la, voilà, on vous la donnera, quoi. Oui, monsieur.
Juste une précision, si j'ai bien compris, s'il y a eu ordonnance de tri, c'est-à-dire qu'on écarte la première demande de recours, l'étranger a encore 15 jours, magnifique, mais enfin, il a bien 15 jours pour faire un mémoire complémentaire? Non. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une ordonnance de tri qui fait qu'on n'examinera pas? C'est fini?
Si la requête a été jugée irrecevable, c'est ça?
On n'a pas compris le début de la question, c'est s'il y a une ordonnance de tri ou s'il n'y a pas d'ordonnance de tri.
Non, c'est fini.
Il est
informé qu'il y a
eu ordonnance de tri. Ça donne lieu à une décision qui s'appelle plutôt une ordonnance qu'un jugement. C'est pour ça qu'on parle d'ordonnance.
Et c'est terminé.
Oui.
Ça vaut rejet. Les 15 jours, c'est s'il y a. On a toujours 15 jours. On a encore 15 jours pour faire du complémentaire.
Voilà. Alors, cela dit, si dans son recours. Qui serait infondé et qui donnerait lieu à une ordonnance de tri, il a précisé qu'il allait envoyer un mémoire complémentaire, on doit lui laisser le temps.
Mais voilà, ça, c'est, un élément très très important, hein, cette ordonnance de tri, parce que ça veut dire concrètement qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour rejetée par la préfecture, soit parce qu'elle n'avait pas toutes les informations dans le dossier, soit parce qu'elle a mal apprécié la situation, soit parce qu'elle a violé une disposition de la loi, enfin bon. Si l'étranger fait un recours devant un tribunal et qu'il y a une ordonnance de tri, ça veut dire que plus personne ne se prononcera sur le dossier. Ça veut dire qu'il n'y aura eu que la préfecture qui aura examiné le dossier et qui aura dit « je refuse » et ça s'arrête là. Hein.
Il n'y a plus rien à faire.
Non. Vous voyez le déséquilibre des parties, parce que l'administration qui, elle, a les moyens peut faire une réponse stéréotypée, mais l'étranger qui est dépourvu, lui, doit faire un recours qui ressemble à quelque chose, un rapport avec le droit.
Et c'est un des écueils, parce que concrètement, si jamais les tribunaux administratifs se sentent engorgés, eh bien, rien ne leur empêchera de gonfler ces ordonnances de tri pour...
C'est
encore une possibilité pour que...
C'est comme les portillons du métro, vous savez, c'est portillons, on peut pas revenir en arrière.
Je voulais juste finir sur ce point. Je vous rappelle que il peut y avoir une ordonnance de tri si le recours a été mal fait. Or, on a dit tout à l'heure que l'étranger disposait d'un mois pour faire son recours contre trois mesures distinctes. Contre les trois mesures et en un mois, il doit avoir réussi à être suffisamment bon pour faire un recours qui tienne la route selon des formes très précises qui sont absolument impossibles à connaître quand on n'est pas juriste, sachant que ça va être difficile en un mois de trouver un conseil, soit un avocat, soit une association qui pourra l'aider dans le délai. Donc c'est un mois pour faire un recours parfait sur trois mesures. En fait,
oui. Nous, on a déjà mis, nous-mêmes, on a mis une semaine pour faire un modèle, vous voyez. Donc.
Les trois mesures, c'est le pays de destination.
Oui, c'est ça, c'est la
première. Le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et le pays de destination.
Oui.
Il y a une dérogation aussi au droit commun qu'on n'a pas évoqué, parce que c'est un dispositif complet. Hein. C'est que vous savez que normalement, quand on a une affaire, elle est jugée par... trois juges, c'est ce qu'on appelle, enfin trois juges, c'est le principe de la collégialité. Alors, dans notre hypothèse, quand il y aura un contentieux, et quand l'étranger sera en rétention administrative, et donc que sa requête sera jugée dans les 72 heures, dans ce cas-là, on écartera, comme par hasard, le principe de la collégialité, je m'arrête si je me trompe, hein, et sa requête sera jugée par un juge unique, tout ça pour alléger la charge des juridictions administratives, parce qu'on considère que finalement, le contentieux des étrangers, c'est un sous-contentieux qui ne mérite pas, qu'on y attache beaucoup d'importance. Enfin, c'est ça l'esprit général. Quoi.
Oui.
Un juge unique est en 72 heures. Il avait trois mois pour juger si l'étranger était libre. Ça passe à 72 heures, il est tout seul. Et ce que je vous rappelle, c'est qu'on a dit tout à l'heure que si l'étranger était arrêté dans une autre ville que l'endroit où il avait déposé son recours, il y a un transfert du dossier entre le tribunal d'origine et le tribunal du lieu de rétention.
J'espère que ça mettra pas
72 heures. Le juge, tout seul, doit statuer en 72 heures sur un dossier qui doit lui être transmis par un autre tribunal. Un dossier d'étranger, quand il y a de la matière, voilà, c'est comme ça, de pièces. Hein. Donc je ne sais pas du tout comment ils vont transmettre le dossier. L'avocat, c'est pas du tout sûr que l'avocat de Paris ait envie ou ait la possibilité ou ait les moyens de se déplacer à Marseille si l'étranger est placé en rétention à Marseille, surtout si l'avocat est payé à de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire rien du tout. L'étranger ne pourra pas être assisté de sa famille au moment de l'audience. Et la dernière chose qui semble quand même aberrante, c'est que c'est le juge du lieu de rétention qui va statuer sur le dossier, ce qui veut dire que la préfecture a la possibilité de choisir le tribunal en choisissant le lieu de rétention. Il est gentil. Ah, celui-là, il me convient un petit peu mieux vu les décisions qu'il prend. Bah, je vais plutôt placer en rétention ici que là.
Marianne, tu voulais ajouter quelque chose? Pour laisser la place aux questions.
Oui.
D'autres questions?
Oui, on a parlé de la suppression. La suppression de la PRF par voie postale, mais il y a son maintien en rétention lorsqu'il est donné de la main à la main.
Oui, bien sûr.
Il existe toujours.
Interpellation classique dans la rue pour quelqu'un qui n'a pas eu de refus de séjour.
Oui, hein. Ici, il n'y a pas eu d'OQTR.
De refus de séjour.
Donc on aura toujours des recours à faire.
Absolument. Toujours. Oui, c'est très simple. Il y a quatre mesures d'éloignement maintenant au lieu de trois. Voilà.
Donc si l'étranger est placé en rétention et qu'il n'avait pas eu de QTF, à ce moment-là, on peut faire le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière pendant qu'il est en rétention, comme ce qui est arrivé avant.
En revanche, un délai de 48 heures.
On a 48 heures pour faire le recours et le juge a 72 heures pour statuer. Donc ça, ça ne change pas. En revanche, si l'étranger avait eu une QTF et qu'il a déjà fait son recours, on ne peut plus rien faire en rétention. Et si l'étranger avait eu une QTF et qu'il n'a pas fait son recours, on ne peut plus rien faire en rétention. Donc il va y avoir beaucoup plus de situations dans lesquelles on ne pourra rien faire en rétention, alors qu'il n'y aura peut-être que la préfecture qui aura examiné le dossier. Parce que si l'intéressé fait son recours devant le juge, mais que c'est rejeté au tri, parce que ce n'est pas fait comme ça devrait l'être, on va avoir des personnes placées en rétention sans qu'un juge examine le dossier, Il n'y aura que la préfecture qui se sera prononcée sur le dossier.
Pour revenir sur les ordonnances de tri, il faut savoir qu'il y avait un usage et une jurisprudence aussi qui était favorable aux particuliers. C'est-à-dire que lorsque ce sont des particuliers qui déposent des recours, le tribunal administratif les examinait avec bienveillance et était beaucoup moins rigoureux. Si c'était un professionnel, eh bien ce recours, cette requête pouvait être déclarée irrecevable parce que manque de moyens, etc. Quand il s'agissait d'un particulier, il y avait une jurisprudence effectivement qui avait rattrapé un certain nombre de cas. Or, avec la nouvelle loi et décret, et je renvoie à l'explication tout à l'heure, eh bien, même pour les particuliers, ces ordonnances dites de tri s'appliqueront.
Moi, c'est une question sur la santé, enfin, une poêle de santé. Je suis la coordination 93 de lutte pour les sans-papiers. Et en même temps, je fais des permanences dans le cadre du droit de Pierre Fitte. Et je suis surtout des permanences santé. Donc, on connaît la logique actuelle, hein, qui est qu'effectivement, les décisions des inspections de la DAS ne sont plus de nature vraiment médicale, mais complètement politique. À savoir que tous les gens qui étaient en situation régulière, tout en Seine-Saint-Denis, c'est complètement massif, réellement massif, qui étaient en situation régulière, même précaire, ne le sont plus depuis quelques mois. Les moyens que l'on a pour défendre ces gens-là, évidemment, ça les recours demande du temps, parce que ça demande quelquefois des enquêtes au pays d'origine par rapport à l'accessibilité aux soins. Et donc, ce sont d'ailleurs que les uns et les autres, enfin, on essaie d'avoir des réseaux dans les pays d'origine. Et là, on voit bien qu'avec le processus d'accélération, quand même, de l'obligation à quitter le territoire français, on va encore avoir moins de moyens pour défendre de manière très pertinente sur les véritables scandales que sont effectivement la limitation des titres de séjour aux soins. Je dis ça parce qu'on le dit sous forme de questions pour savoir si justement sur les questions de régularisation pour maladie, il y avait une réflexion un peu spécifique ou des propositions spécifiques. Voilà. Enfin,
ce que je peux vous dire, c'est que le modèle qu'on a préparé, enfin, par la Ligue des droits de l'homme, ni sans plus d'autres, et revu par les autres, c'est que le modèle concerne justement un refus de séjour qui a un lien avec une pathologie. Hein? Mais après, il n'y a pas une réflexion spécifique, il y a des collectifs spécifiques qui s'occupent de la santé, mais en lien avec la nouvelle mesure d'éloignement, ça ne me semble pas pour l'instant, mais peut-être que je me trompe, il y a un moyen effectivement qu'il faut, le droit à développer et sur lequel il faut sans doute réfléchir, mais vous trouverez des éléments dans le recours.
Enfin, ce que je veux dire, en gros, c'est une logique qui détruit les droits opposables. Quoi. On parle beaucoup de droits opposables en ce moment. Une logique à rendre les droits le moins opposables possible. C'est le général du texte.
Ah, donc, ce n'est pas des droits, quoi.
Ben voilà. Ce n'est pas vraiment des sujets de droit non plus. Quoi. C'est des étrangers.
Il y a eu un groupe de magistrats, un jury de magistrats des tribunaux administratifs pendant la discussion de la loi. Ouais. J'ai pas totalement. Enfin, sur le fond, c'était assez compliqué de comprendre exactement les états dans le mécontentement. Est-ce qu'ils vont quand même, est-ce que ça va quand même dans votre sens? Est-ce que vous avez parlé avec eux? C'est pas quelle idée du dialogue que vous pouvez avoir avec eux. Voilà. Et est-ce qu'il y a un espoir éventuellement à fonder sur un mécontentement des magistrats qui finirait par poser problème pour les députés?
Oui, des conseillers administratifs, hein.
Oui, les conseillers de TA avaient une grève sur le juge unique.
Voilà, oui, il faut savoir qu'il y a 90%, je crois, des affaires qui, à l'heure actuelle et à l'avenir, vont passer à juge unique. Donc, effectivement, un syndicat s'est ému de cette situation, mais enfin, il n'est pas d'usage au sein des juridictions administratives pour les magistrats de faire grève. Alors c'est vrai qu'il y a eu une grève il y a quelques mois, assez symbolique parce qu'ils étaient très peu représentés. Je ne sais pas si l'action chez eux se poursuit. Donc ils vont plutôt devoir entériner
les
réformes.
La justice administrative est en train de se transformer de plus en plus.
Il y a quand même une partie, enfin, moi je ne suis pas une spécialiste des syndicats dans les TA, mais il y a quand même certains syndicats qui se battent et qui dénoncent en fait ce qui est fait. Mais après, la résistance est difficile. Mais pour rebondir plus sur votre question, il y a eu des dénonciations aussi de leur part, une partie des syndicats. D'autres questions?
Oui, est-ce que vous pourriez repréciser ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que quand qu'on peut dire qu'il y aura un recours complémentaire éventuellement
un mémoire.
Si on,
dans le recours, et je crois qu'il faut le dire à tous concernés par les recours possibles, il faut toujours penser à dire que l'intéressé va produire un mémoire complémentaire. Même s'il doit être produit dans les 15 jours, c'est toujours 15 jours de plus. Et pendant ce laps de temps, tant que le mémoire n'a pas été produit, le tribunal ne peut justement pas rendre ses ordonnances d'irrecevabilité. Donc c'est très important de l'annoncer, parce que si ce n'est pas annoncé et qu'effectivement un requérant n'a pas su rédiger, c'est clair qu'il va passer en ordonnance de tri. Si une association, quelqu'un pas très au fait, même chose. Donc autant l'annoncer, évidemment ça suppose d'être déjà conseillé, mais bon. En tout cas, sachez que ça ne mange pas de pain d'annoncer « je vais produire un mémoire complémentaire ». Dans ce mémoire, vous rajoutez après toutes les informations que vous pouvez, qu'elles soient des informations de fait ou juridiques.
Là, il y a un
délai. Par contre, faut le faire.
Mais dans les 15 jours.
Dans les 15 jours.
Par contre, une fois que c'est annoncé, il faut le faire.
Oui,
parce
oui.
Que si
ah
jamais,
bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est pour ça que je dis dans les 15 jours. Oui. Et le tribunal n'a pas obligation de vous le demander. D'accord. Si vous l'annoncez que vous ne faites pas, tant pis, le tribunal ne vous invitera pas à le produire.
Donc la même chose, hein, si le mémoire complémentaire n'est pas produit dans les délais, ça s'arrête là.
C'est une autre illustration de ce que disait Nathalie, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'administration, en revanche, on invite l'administration à produire ses défenses, et vis-à-vis du citoyen.
Je suis pas sûr d'avoir bien compris l'histoire des centres de rétention. Ça veut dire que si, par exemple, il y a un OQTF, qu'il y a un recours qui est déposé dans le délai d'un mois, et qu'entre-temps, l'étranger est placé en centre de rétention, toute la procédure, finalement, refus, expulsion, etc., se prend moins d'un mois.
Le tribunal doit statuer en 72, dans le délai de 72
heures. Par exemple, expulser deux semaines après avoir été notifié de l'OQTF ou pas ?
Il y a toujours ce délai d'un mois qui est le délai pendant lequel l'étranger est, entre guillemets, avec des gros guillemets, protégé. Il a un mois pour faire le recours. Le temps ce délai d'un mois empêche l'administration de faire une expulsion. Par contre, à partir du moment où, on va dire, à un mois plus trois jours, il y a eu un dépôt un recours qui a été déposé à 29 jours. Mais au bout d'un mois et trois jours, la personne se fait arrêter, placée en rétention. Ça ne sera plus trois mois de délai pour que le tribunal le statue, ça sera 72 heures. L'administration, la préfecture en l'occurrence, préviendra que cette personne a été mise en rétention. À partir de là, elle demandera au tribunal administratif compétent de statuer en 72 heures.
Donc, ce que vous précisez, monsieur, peut-être, c'est qu'on peut rester quand même jusqu'à 32 jours en rétention. Donc ça permet de...
Voilà. En fait, il est pas sur place.
Voilà, c'est pas un problème. On passera devant le juge des libertés qui dira oui, on prolonge et puis terminé.
Une fois que la décision, par exemple, d'expulsion a été prise par le juge, donc dans les 72 heures, donc, il devra forcément rester en centre de rétention jusqu'à l'expiration des...
Il peut être expulsé dès qu'il y a un avion.
L'ensemble de la procédure prend moins d'un mois.
C'est ça. S'il y a un placement en rétention, même sur une OQTF, même sur une contestation d'OQTF, on revient, grosso modo, à ce qu'on connaît sur l'APRF. C'est-à-dire qu'on revient du coup à un délai de 72 heures avec une expulsion à 72 heures plus une heure.
Excusez-moi. La décision est notifiée.
Il y a un mois
pour partir.
Je crois qu'il faut réexpliquer. Il y a plusieurs.
La décision est notifiée, d'accord ? Il a un mois pour partir. Donc pendant un mois, on ne le force pas à quitter le territoire. Dans ce délai d'un mois, il peut faire un recours. D'accord ?
C'est après que ça joue.
S'il fait son recours dans le délai d'un mois, passé un mois, on peut le mettre en centre de rétention. Et là, on bascule sur l'ancien système de la PRF, à savoir 72 heures pour le juger.
Il faut un
mois pour partir librement. Donc à partir du moment où on lui notifie la décision, il a un mois pour quitter la France. Dans ce mois-là, il peut faire un recours.
C'est par rapport au délai de 3 mois que ça change.
Et quand bien même il a fait son recours, au bout du délai d'un mois, il peut être placé en centre de rétention.
Je croyais que c'était dans le système actuel. Il reçoit une IQTF, une invitation à quitter le territoire, et donc pendant un mois, il est tranquille. Au bout d'un mois...
Il est passible d'un APRF.
Il est passible d'un APRF. Ça, c'est la situation actuelle. Mais avec l'obligation de quitter le territoire, il peut, à ce moment-là, moi j'avais compris qu'il pouvait être mis en rétention tout de suite.
Non, passer un mois.
Non, parce que le,
qu'il a un mois.
L'obligation remplace à la fois les deux étapes antérieures.
Oui,
mais il y a toujours le délai d'un mois. C'est un mois et après, on est sur...
Si vous voulez, avant, on lui demandait de partir. Et après, il fallait réitérer une décision pour qu'elle soit exécutable, le départ soit exécutable de manière forcée. D'accord ?
Il n'y a plus besoin de...
Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de la deuxième décision.
Et il y a toujours un mois.
Vous voyez, même nous-mêmes, on n'est pas...
Non, les textes ne sont pas très clairs, mais simplement, je crois qu'il faut retenir qu'il y a deux délais. Le délai du recours du justiciable et le délai du tribunal administratif pour statuer. Ce délai pour statuer, il vient presque forcément après le temps de recours laissé au justiciable. Donc après ce délai d'un mois... Le tribunal a 3 mois encore pour juger, mais il n'est pas sanctionné s'il dépasse. Alors, on ne sait pas, on verra s'il le fait dans les 3 mois ou pas, on ne peut pas vous le dire encore. Et il a ce délai de 3 mois est ramené à 72 heures si l'intéressé est en centre de rétention, c'est tout.
Ça peut encore s'améliorer. Hein. Après la présidentielle, on peut avoir une nouvelle loi, il supprime le délai d'un mois. Et il y a aussi autre chose qu'on peut faire, c'est faire créer des juges uniques dans les centres de rétention. À mon avis, est déjà dans les cartons, quelque part. On a déjà fait les tribunaux dans les centres de rétention.
Ça existe déjà dans les zones d'attente.
Voilà, dans les zones d'attente, on a déjà...
Je n'avais pas bien compris tout à l'heure votre exemple où vous parliez de cette famille qui était à Paris et qui était ensuite venue dans Seine-Saint-Denis.
Oui.
C'est-à-dire que quand on quitte un département et qu'on va dans un autre, on recommence.
Il fallait qu'elle est allée à la préfecture de Vigny pour transfert du dossier.
Donc ça oblige en plus ces personnes à rester là où ils sont. On n'a pas le droit de bouger en France.
On a le droit, mais on prend des risques.
Ah ouais, bon, c'est bien, on est repéré.
D'un préfet à l'autre, d'une préfecture à l'autre, Bobigny, c'est particulièrement humain. Chacun sait.
En fait, on a parlé beaucoup des refus de séjour. Il faut aussi, peut-être pas sur les retraits de titres, encore que ça soit multiplié au fur et à mesure des réformes, mais des non-renouvellements de titres. Hein. Et là, on est par rapport au statut de travailleur temporaire, du travail. Il y a un risque sérieux que le titre ne soit pas renouvelé, pas tant parce que le contrat a été rompu, mais simplement parce que le contrat de travail lui-même est un contrat à durée déterminée et qu'il est venu à expiration. Et donc, du coup, ça interroge la question du renouvellement. Et là, on aura, pas forcément au bout d'un an, mais de 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, les passages automatiques de la carte temporaire à la carte de résidence se sont réduits comme une peau de chagrin. Donc, le risque est assez important. Hein. Je dis ça parce que ça a un lien avec les moyens qu'on aura à construire. Parce que là, on a des allégations peut-être nouvelles au titre du travail à faire valoir, de contentieux prud'homaux en cours, ou je ne sais pas. Et du coup, ça nous demande aussi à nous à réfléchir à une perspective par rapport à des situations qu'on connaît moins peut-être, des situations familiales ou de type respect de la vie privée. Peut-être qu'on aura d'autres situations à venir qui s'inscriront dans le dispositif.
Donc tout ce qu'on vient de vous dire est valable pour la personne qui était en situation régulière depuis des années. Le cas typique, c'est effectivement la personne malade qui suit un traitement en France et un jour, on ne sait pas pourquoi, le médecin inspecteur de santé publique décide que tout d'un coup, on peut se faire soigner au Mali, ou que tout d'un coup, la personne est guérie, et on a un refus de renouvellement de titre de séjour. Donc on perd tout, hein, le travail, le logement, etc. Et tout d'un coup, on a un document qui arrive à la maison, où il est écrit, on refuse de vous renouveler votre titre de séjour, on prononce une OQTF et on vous dit que ce sera au Mali que vous allez être envoyé. Donc tout le processus qu'on vous a décrit est valable, y compris pour ces gens-là, qui ne s'attendent pas du tout à avoir un refus de séjour.
Travailleur jetable, malade jetable, immigration jetable, c'est cohérent. Ça s'appelle la rupture.
Il faut compter qu'on est en train de prendre On invite aussi à prendre, parce que c'est une hypothèse légale, des OQTF contre des ressortissants communautaires, sans rentrer dans le détail. Oui. Ressortissants communautaires, c'est l'ensemble des ressortissants qui relèvent d'un État membre de l'Union européenne tel qu'existe aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas, en réalité, prendre des OQTF contre des ressortissants communautaires, y compris roumains et bulgares, dans la mesure où le droit communautaire limite les possibilités ou les restrictions au droit au séjour uniquement pour des raisons d'ordre public. Donc, le fait d'être sans papier ou de ne pas répondre aux conditions n'est pas une raison d'ordre public au sens du droit communautaire. Donc, le droit français n'est pas conforme au droit communautaire sur ce point.
Petite illustration, toujours la Seine-Saint-Denis. La veille de Noël, le 24 décembre, on a expulsé une mère de famille qui était séparée d'un enfant de moins de 6 mois en Roumanie. Il y avait encore quelques jours avant que la Roumanie nous rejoigne. ne jamais laisser passer. On a encore 8 jours de plaisir pour les chasseurs.
Ce sera dans les comptes.
Oui, ce sera dans les comptes 2006.
Oui, voilà.
Le chiffre de faire plaisir.
Est-ce qu'on peut revenir à la situation qui pourrait exister, que vous avez expliqué, que le préfet pourrait ne pas prendre d'obligation de quitter le territoire et qu'à ce moment-là, l'immigré qui a un refus de séjour se retrouverait dans le droit pénal. Ça risquerait la prison, etc.
Et en séjour irrégulier,
au séjour irrégulier, c'est l'article 621-1 du CESEDA, j'ai révisé avant. Ce n'est pas le code par cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, on a des hypothèses dans lesquelles on peut prendre toujours les APRF, les anciens modèles, là, qui existent toujours, et donc des hypothèses légales dans lesquelles on peut prendre une obligation de quitter le territoire français. Et parmi ces hypothèses où on peut prendre des obligations de quitter le territoire français, il y a les refus de séjour, qui ne figurent pas parmi les catégories pour en faire l'objet donc d'un arrêté de reconduite à la frontière, ancien modèle. Donc partant de là, la voie administrative, est-ce que vous m'arrêtez si je me trompe, hein, ou si je dis des bêtises, la voie administrative est bouchée, donc on ne peut plus prendre ni l'un ni l'autre, puisqu'on a choisi de ne pas le faire. L'administration pouvait le faire, elle ne le fait pas. Mais il n'empêche que la personne est en situation irrégulière et que ça constitue un délit que d'être en situation irrégulière en France. Ça n'a pas changé. Donc le risque pénal existe. Alors après, on pourrait penser, c'est pas parce que l'administration a choisi de ne pas prendre une QTF que le ministère public décidera de ne pas poursuivre. Hein. Ils sont parfois liés.
C'est une infraction continue.
Voilà. C'est pas une question de dossier. Je crois que au hasard des contrôles d'identité ou d'un quelconque délit commis par l'étranger, il pourra être également poursuivi pour ce délit qui est d'infraction à la législation des étrangers.
Avec l'intérêt que ça peut être lié avec une interdiction du territoire français, et c'est tout bénéf également pour l'administration.
Ça se fait bien pour le travail clandestin, parce que maintenant, quand on cherche le travail clandestin, c'est pas tellement les patrons.
Si on a une obligation sur le territoire français, est-ce qu'il y a la possibilité de faire simultanément quand même un recours gracieux classique et le recours à l'obligation
Mais d'un point de vue
suspensif, on peut le faire comme de manière simultanée.
Oui, bien sûr.
Mais hiérarchique, tactique. Stratégiquement,
c'est plus juste. En pratique, si déjà on n'a pas le temps de faire.
Parce que la préfecture, vient de prendre une décision. Si vous faites un recours gracieux, c'est à cette même préfecture que vous vous adressez.
Non, je dis ça. La préfecture a mieux réfléchi, c'est qu'elle n'a pas décidé simplement pour refuser
de moindre travail.
Elle a décidé déjà de vous éloigner potentiellement. Donc on peut penser que le recours.
Et on peut continuer à écrire depuis Bamako.
Oui, peut-être. Si une association a une influence sur la préfecture, elle peut également intervenir.
Bien sûr.
Les avocats étant très mal vus.
Il y a des associations aussi.
Je pense qu'on le fera de manière automatique et systématique, les deux.
Et vous verrez qu'il y a un décalage entre la note pratique qu'on vous a remise, qui est provisoire, je pense qu'on la refera un peu plus tard. Il y a un décalage entre ce qui est dit dans la note pratique et ce que vous lirez dans la circulaire du 22 décembre 2006. Concernant le cas de personnes qui ont eu un refus de séjour avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Puisque nous prétendons que pour ces personnes qui ont eu un refus de séjour, c'est-à-dire tous ceux qui ont été déboutés de la circulaire que vous connaissez bien, enfants scolarisés, tous ceux qui ont eu un refus de séjour avant donc la date d'entrée en vigueur, nous prétendons qu'elles ne peuvent plus faire l'objet d'une mesure administrative d'éloignement. Pour une combinaison juridique dans laquelle je ne vais pas rentrer. Mais si vous lisez la circulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure du 22 décembre 2006, ils disent strictement le contraire. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'attaquer cette circulaire. Mais il faut être vigilant en pratique parce que du coup, ça peut donner lieu à développement de ce moyen-là. Et donc d'essayer de se récupérer les moyens de recours développés dans notre recours à nous contre la circulaire, plutôt que de se référer évidemment à la circulaire. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail du raison du comment, mais c'est assez compliqué parce que c'est une articulation entre plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et du CESEDA. Voilà.
Mais c'est un petit peu expliqué dans la note.
Mais c'est expliqué dans la note.
Pourquoi l'administration ne pourrait plus prendre un APRF, contrairement à ce que le ministère demande aux préfectures de faire.
Nous, on a commencé à avoir quelques premières obligations. Il n'y en a pas beaucoup en pratique. On n'a pas parlé de la pratique. Je sais qu'à la FACI, on a vu les premières UTF. Je ne sais pas si pour la Ligue des droits de l'homme, vous en avez vu.
J'en ai vu à la prison de la santé. Ouais.
Et à la CI d'ici les Moulineaux, ils en ont vu une avec les voies de recours de la PRF. C'est-à-dire que l'administration a dû s'en mêler un peu les pinceaux. Quoi. Voilà.
On a fait un mauvais copier-coller.
C'est bien fait.
La première obligation,
c'était
avec reprogrammation,
hiérarchie. Mais là, avec les bons délais.
Non.
Bon, voilà. Donc,
comme quoi.
Cela dit, dans cette circulaire du 22 décembre, il y a un exemple d'OQTF. Ce n'est pas clair parce qu'il continue d'indiquer qu'on peut faire finalement dans le délai de 2 mois un recours gracieux et un recours hiérarchique, tout en disant le paragraphe suivant que pour que ce soit suspensif, il faut faire dans le délai d'un mois au tribunal administratif. Donc la première partie, il ne faut pas en tenir compte.
Ben, ce ne sera pas suspensif.
Voilà. Oui.
C'est comme les invitations, les convocations à la préfecture.
Oui, pour vérifier un petit détail dans le dossier.
Vous avez dit que les ressortissants européens ne pouvaient pas faire l'objet d'un OQTF. Mais j'ai entendu dire qu'ils pouvaient le...
Oui, c'est ce que la loi dit qu'ils peuvent faire.
Ils peuvent pour absence de ressources, pour insuffisance de ressources.
Peu importe la raison pour laquelle, puisque la seule raison, au regard du droit communautaire, de porter des restrictions au séjour des communautaires, ce sont des raisons d'ordre public. Alors, sauf à faire la démonstration.
Et l'absence de ressources, c'est l'ordre public.
Qui serait rejeté par le juge communautaire. De dire que l'insuffisance de ressources est une raison d'ordre public.
Il y a beaucoup de délinquants.
Ça serait un petit peu compliqué. Alors après, une fois qu'on a dit ça, encore faut-il le faire valoir. Donc il faut remonter tous les échelons pour réussir à le faire juger une fois pour toutes.
Et là, on peut contester la loi devant n'importe quel juge pour faire enfin, tout le monde. Tous les juges. Ah oui, bien sûr.
Il faudrait effectivement demander au juge, vous savez, c'est très compliqué, il faudrait demander au juge administratif français d'interroger le juge communautaire sur la compatibilité entre le droit français et le droit communautaire. Parce que ça fait gagner du temps, mais ce n'est pas hyper léger comme dispositif.
On peut le faire
pour plus.
Entre temps, ils sont déjà assez loin.
Cette opposition justement de cette réforme avec le droit communautaire, est-ce que ça signifie que la France elle est à l'avant-garde de. Du déni des droits des étrangers au niveau européen.
La France n'a jamais été un modèle de respect du droit communautaire. Et donc, elle, voilà.
Elle continue.
Et puis, il y a un télescopage, parce que le droit communautaire n'avait évidemment pas été fait pour ça. Quoi. Mm. Il n'avait pas été fait...
Par contre, la France est en avant-garde pour faire en sorte que le droit communautaire se modifie dans le bon sens pour eux et pour le mauvais sens pour nous. Là-dessus, ils sont très à la pointe.
On a fait la Convention européenne des droits de l'homme, on n'avait pas pensé que ces gens-là seraient aussi nombreux chez nous. Ouais.
Parfois, il y a des avancées, comme la dispense des titres de séjour pour les communautaires, mais en réalité, c'est très difficile de vivre sans titre. Donc, ils demandent un titre quand même, d'un point de vue pratique. Hein.
Oui, moi, c'est pour être sûr d'avoir bien compris. Si j'ai bien compris, toutes les familles qui ont demandé à être régularisées au titre de la séjour et qui ont reçu un refus, il y en a qui n'ont rien reçu, mais celles qui ont reçu un refus, qui ont fait des recours hiérarchiques gracieux, et là, il y a eu un refus, soit le délai de 2 mois est passé, donc ça vaut refus. Toutes ces familles-là peuvent recevoir maintenant une obligation de quitter le territoire.
Normalement, non.
Il faudrait que l'administration reprenne une décision, puisque la préfecture
aurait
dû
prendre un arrêté de reconduite à la frontière après le refus de séjour.
Donc, elle ne l'a pas fait.
Si elle ne l'a pas fait, elle ne peut plus prendre l'arrêté de reconduite à la frontière.
Mais en revanche, elle peut toujours réapprécier la situation et prendre
Alors, elle ne devrait pas reprendre une OQTF sur le même refus de séjour. Ça, c'est pas possible. Elle ne peut pas prendre l'OQTF seule, parce que l'OQTF, c'est forcément accompagné d'un refus de séjour. Donc, la seule possibilité serait de reprendre un refus de séjour assorti d'une OQTF ou de faire ce que le ministre préconise, c'est-à-dire de prendre quand même un APRF en violation de la loi.
Selon nous, c'est légal, puisque la PRF n'existe plus maintenant.
Pas pour les refus de séjour.
Oui, il y a un effet balancier. Puisque maintenant les gens qui ont eu un refus de séjour sont passibles de l'OQTF, ils ne peuvent plus l'aide de la PRF. Donc en fait, la réforme dont parlait Nathalie tout à l'heure, c'est qu'ils ont enlevé des gens passibles d'APRF, ceux qui aujourd'hui peuvent recevoir l'OQTF. Voilà. Notamment les gens qui ont demandé un titre et à qui on l'a refusé. Donc ce que dit notamment cette fameuse circulaire, c'est vous vous en fichez, vous trouvez ce qu'on appelle une autre base légale. Parce que juridiquement et légalement, ils ne peuvent plus faire l'objet d'un APRF, on contourne, ils sont certainement rentrés irrégulièrement, hop, on prend une autre base légale. On substitue.
On a toujours les interdictions du territoire français.
Le séjour irrégulier au pénal.
Parce que moi j'ai commencé à avoir des familles, enfin pas des familles entières, mais certains ressortissants qui auraient relevé de la circulaire pour être parents d'enfants scolarisés qui sont déférés devant le tribunal correctionnel. Alors souvent, c'est vrai que traditionnellement, c'est l'hypothèse où on ne reprochait pas seulement le séjour irrégulier, mais une infraction connexe, usage de faux, des choses comme ça. Enfin, séjour irrégulier en lui seul, c'est un début.
C'est-à-dire on va avoir aussi des poursuites pour complicité de séjour irrégulier, pour aller sur irrégulier. Marseille, c'est des enjeux.
Ceux qui ont eu une QTF il y a 3 ans, qui n'a pas été suivi d'APRF, qui ne se sont pas fait piquer dans la rue, qui aujourd'hui se font arrêter dans la rue, qu'est-ce qui se passe?
Ils ont un APRF. Même s'il est notifié en main propre, comme ça, ça existe toujours.
Mais
on ne retournera pas sur une QTF pour faire une OQTF.
Non. On est déjà à l'étape après.
Elle ne peut pas vivre toute seule, l'OQTF. Elle est forcément avec sa copine. Le refus de séjour, le refus de renouvellement ou le retrait.
Ce que dit la loi, c'est le refus de séjour est assorti d'une OQTF.
Depuis le 30 décembre.
Pas d'OQTF seul.
Quand il y a eu refus antérieur,
c'est... L'OQTF va s'appliquer à tous les refus de séjour depuis le 30 décembre 2006, date de parution du décret.
Vous voyez comme c'est simple, comme dispositif, s'adressant quand même à des personnes qui ont subi pas mal de réformes.